talmudique. Sentant sa mort approcher, le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, décida de léguer à ses disciples le peu de richesses qu'il possédait. À son serviteur le plus fidèle, Rabbi Ankel, le Baal Shem Tov lui dit avec un sourire « À toi, j'offre mes histoires. Tu parcourras le monde entier pour les faire entendre. » Le maître mourut. Rabbi Ankel resta seul. Il se disait au fond de lui-même « Est-ce là un héritage ?» Mais un jour, il entendit qu'un homme était prêt à payer très cher pour entendre des histoires sur le Baal Shem Tov. Rabbi Ankel fit savoir qu'il était l'homme de la situation. Après un long voyage, il arriva un vendredi matin dans une grande ville de Pologne. Il fut accueilli par l'homme qu'il avait fait venir, qui n'était autre que le président de la communauté. Le soir même, à l'occasion du Shabbat, au milieu du repas qui réunissait toute la communauté, le président se leva et prit la parole. « Nous avons l'honneur de recevoir le disciple et secrétaire du Baal Shem Tov, venu spécialement nous raconter des histoires sur la vie de son maître. Rabbi Ankel, vous avez la parole. » Rabbi Ankel se leva, heureux de pouvoir enfin parler de son maître. Il embrassa l'assistance d'un regard généreux et voulut commencer à raconter. Il ouvrit la bouche et... rien. Il ne se souvenait de rien. La tête était vide. Il était incapable de raconter la moindre anecdote, le moindre petit souvenir. Le président, voyant son trouble, reprit la parole et dit à l'assistance « Rabbi Ankel est certainement très fatigué par son long voyage. Après une bonne nuit de repos, il retrouvera toutes ses forces et toute sa mémoire et nous offrira de très belles histoires. » Le lendemain, au milieu du deuxième repas, Rabbi Ankel se leva pour parler et à nouveau rien, rien que le vide, et ainsi lors du troisième repas. Dès le lendemain matin, Rabbi Ankel se vit raccompagné discrètement et froidement par son hôte et quelques fidèles. Les chevaux commençaient déjà à se mettre en route quand Rabbi Ankel se dressa sur le marchepied de la voiture et se mit à crier « Arrêtez, arrêtez, j'ai une histoire !» On fit stopper les chevaux et du haut de la voiture, Rabbi Ankel s'adressa au président qui le regardait avec une étincelle d'espoir. Il s'agit juste d'une petite anecdote, mais enfin, le président l'encouragea d'un léger signe de la tête. Par une nuit d'hiver, le Baal Shem Tov me réveilla et me dit « Rabbi Ankel, vite, attelle les chevaux, nous partons. Dans le froid et la neige, nous traversâmes de profondes forêts et nous arrivâmes devant une grande et belle demeure. Le maître entra et après quelques instants seulement, il ressortit et me dit « Rabbi Ankel, nous rentrons ». En entendant cette histoire, le président se mit à pleurer avec de grands sanglots. Rabbi Ankel le regardait stupéfait. À travers ses larmes, le président commença à raconter. « Laissez-moi vous expliquer. La personne à qui le Baal Shem Tov vint rendre visite, c'était moi. Responsable alors pour le gouvernement des actions contre les Juifs. À peine entré, le Baal Shem Tov se mit à dire d'une voix de plus en plus forte « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu faire souffrir tes propres frères? Ne sais-tu pas que tu es un enfant juif rescapé d'un pogrom, recueilli et élevé dans une famille polonaise qui t'a toujours caché tes origines ?» Le moment est venu d'arrêter tes crimes et de revenir vers tes frères et vers ta tradition. Profondément bouleversé, je décidai immédiatement de tout abandonner et de recommencer une autre vie. Je demandai au Baal Shem Tov, « Maître, quand saurai-je que j'ai été pardonné de tous mes crimes ?» Le Baal Shem Tov me dit alors, « Le jour où quelqu'un viendra et te racontera cette histoire, tu sauras que tu as été pardonné. » Jean Baumgarten, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wacklin.
Jean Baumgarten, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vos travaux portent sur la littérature yiddish et l'histoire culturelle du monde ashkénaze. Et vous avez en particulier travaillé sur l'histoire du chassidisme, dont le fondateur est justement le personnage de l'histoire que je viens de raconter, le Baal Shem Tov ou le maître du bon nom. C'est à cette figure majeure que vous consacrez votre dernier livre, intitulé « Le Baal Shem Tov, mystique, magicien et guérisseur » aux éditions Albin Michel. Qui est le Baal Shem Tov, Jean Baumgarten?
Eh bien, on peut dire que c'est un, sans que ça soit péjoratif, un simple juif, un juif ordinaire, qui ne se distingue pas de la masse, du peuple juif. Mais en même temps, il avait visiblement, d'après des sources, des dons surnaturels. Il avait aussi cette capacité de se relier au monde supérieur. Il était aussi porteur de toute une tradition mystique, qu'elle soit par des textes, enfin le Sefer HaZohar, le Tikkuni HaZohar, etc., mais aussi par la connaissance de beaucoup de techniques magiques, mystico-magiques, qui lui permettaient justement de se relier au divin. Et donc c'est un personnage à la fois comparé à beaucoup d'autres juifs de son temps, et en même temps, il a cette profonde piété, ce charisme qui en font un personnage tout à fait exceptionnel et qui va, au cours des temps, devenir une véritable légende.
Légende et fondateur d'un mouvement qu'on appelle le chassidisme. Alors comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce personnage ? On a l'impression, à vous lire, que cela est passé par votre intérêt tout particulier pour les imprimeurs, les éditeurs, les traducteurs et les compilateurs, Jean Baumgarten.
Oui, effectivement, j'avais travaillé sur l'histoire de ces éditions populaires en Europe centrale et orientale. Et bien sûr, j'avais été amené à consulter beaucoup de ces ouvrages du premier chassidisme, et notamment les chiffres et abèches, c'est-à-dire les louanges du Baal Shem Tov. Et donc ça a été le premier lien avec le chassidisme. Et aussi, quand j'étais en Israël, j'avais toujours l'habitude d'aller, notamment à Mea Shearim, à Jérusalem, de visiter ces cours chassidiques, par exemple les Vishnitzer. Et j'avais l'habitude de participer à toutes ces magnifiques cérémonies, bon, que ce soit des mariages, écouter les sermons des Rebbes. Et il y a donc cette intrication à la fois des textes et puis des pratiques et de la fréquentation de ces milieux qui m'ont amené à travailler sur ce mouvement chassidique, essayer de comprendre dans quel contexte eh bien, il est apparu.
Alors ce rapport au livre, au récit, aux archives, est au cœur de votre recherche, Jean Baumgarten, car vous nous montrez comment le Baal Shem Tov a été fabriqué. Vous parlez de la fabrique d'une figure sainte, un mélange de réalité historique et de légende, orale et écrite, beaucoup plus nombreuse que les éléments historiques. Pour vous, le Baal Shem Tov est le résultat de ce tissage entre réalité et fiction, une façon peut-être de remettre en question la dimension de vérité qui est au cœur de ce que l'on nomme la postmodernité, où s'invite justement la post-vérité, Jean Baumgarten.
Oui, effectivement, si on s'en tient aux faits historiques, aux événements réels qui nous permettraient de recomposer la vie et la doctrine du Becht, on reste un peu sur sa fin, car il y a très peu de sources, comme d'ailleurs beaucoup pour les Juifs de cette génération. Mais par contre, il y a énormément de légendes, de récits, de contes. Et donc, j'ai essayé de montrer qu'il ne faut pas séparer les deux comme on l'a souvent fait, mais de montrer que dans les faits réels, et notamment dans le récit historique, il y a une part de fiction, de légendaire, d'imaginaire, que aussi l'histoire est une fiction. Et en même temps que la fiction est tissée de faits réels et qu'à partir de l'enchevêtrement des deux, eh bien, on peut avoir une meilleure idée du contexte historique, social et aussi de la doctrine et de la vie du Becht. Donc je n'ai pas voulu séparer les deux, mais montrer que la vérité est plurielle et qu'il faut prendre en compte avec la même acuité, disons, et la même, comme une part de vérité, et que la légende n'est pas moins importante que ce que l'on peut savoir du Baal Shem Tov.
La vérité a besoin de fiction.
Absolument.
Et alors, dans votre démonstration, grâce à cet enchevêtrement de réalité et de fiction, c'est aussi une grande part de réalité historique que nous découvrons. Sa place de notable dans la communauté de Medjibosh fait du Baal Shem Tov littéralement un docteur, l'un des titres que les archives permettent de découvrir et qui permettent aussi de mieux comprendre ce qu'est un Baal Shem. On l'appelle le Baal Shem Tov, mais qu'est-ce que ça veut dire Baal Shem? Un Baal Shem ou encore un Baal Shem Doctor, Jean Baumgarten?
Oui, un certain nombre d'historiens ont été jusqu'à dire que le Becht était uniquement...
Le Becht, il faut préciser que
Baal Shem Tov, Israël Baal Shem Tov.
C'est les initiales, voilà. L'acronyme de Baal, voilà. Shem Tov, on l'appelle le Becht.
Le Becht ou le Baal Shem Tov. Et donc, certains historiens ont considéré que c'était vraiment un personnage qui n'avait jamais existé, qui était une pure légende, une pure fiction. Mais depuis, beaucoup de documents ont été exhumés. Et notamment, il y a un important chercheur israélien, Moshe Rossman, qui a retrouvé dans les archives du comte Tsartoritsky, donc il avait un domaine dans lequel se trouvait cette communauté de Medzibich, et il a trouvé des archives dans lesquelles, justement, on désignait le Baal Shem Tov et son entourage immédiat, sa famille. Et donc, on sait que le Kahal, c'est-à-dire le conseil de la communauté, lui avait à titre gratuit octroyé une maison et qu'il avait comme fonction officielle dans la communauté d'être un Baal Shem, c'est-à-dire un maître du Saint-Nom, c'est-à-dire un juif qui a cette connaissance des noms divins qui lui permet d'intervenir dans toutes sortes de situations de la vie quotidienne. Et donc, beaucoup de juifs venaient le voir, et des non-juifs aussi venaient le voir, pour lui demander des conseils, des services, quand il y avait un mariage, quand il y avait des problèmes d'argent. Et aussi, c'était un thaumaturge, un guérisseur. Il donnait donc des remèdes. Il le distribuait, il vendait des amulettes qui permettaient donc des talismans, des pentacles, qui permettaient justement de se protéger du mauvais œil. Et aussi, il intervenait quand, par exemple, des personnes étaient possédées par les forces du mal. Et donc, on voit que ce sont des personnages qui sont très intégrés dans la vie religieuse à cette époque, qui ne sont ni des savants, ni des rabbins, ni non plus des ignorants, mais qui appartiennent à ce qu'on appelle l'intelligentsia juive secondaire, qui ont un rôle social et religieux important. Et le Bèche avait l'habitude de se déplacer dans les communautés environnantes, où il allait à la rencontre des simples juifs, et pour les appeler à la repentance, pour aussi délivrer des sermons, pour donner des conseils, des avis. Et sa réputation a commencé à grandir comme cela, à la fois comme guérisseur, comme magicien, comme mystique, qui aidait donc ces populations juives, ces masses juives qui étaient disséminés dans des villages au milieu de la population, et notamment non-juive, notamment beaucoup de paysans. Et donc, il apportait beaucoup de réconfort, d'espoir, aussi dans une visée, dans une messianique, c'est-à-dire qu'il fallait préparer la génération à la venue des temps messianiques. Donc, on voit qu'il a un rôle à la fois donc de magicien et aussi de conseiller, et aussi de médecins, enfin de rebouteux, si l'on veut, qui distribuaient des remèdes, des refouers, et aussi des charmes et des amulettes.
Et on peut dire aussi, puisque sa femme tenait une auberge, que fréquentaient beaucoup de paysans de la région, il avait un côté médiateur, d'intermédiaire entre la communauté juive et la communauté non-juive. Peut-être cette idée de médiation est quelque chose de très important.
À la fois dans la doctrine du Bèche, donc cette idée de relier le haut et le bas, enfin les mondes supérieurs et le monde terrestre, et aussi lorsqu'il y avait des problèmes ou de la violence ou des conflits entre les autorités, qu'elles soient ecclésiastiques ou civiles, et la communauté juive, eh bien il faisait office de ce qu'on appelle un Stadlan, c'est-à-dire une sorte d'ambassadeur, de représentant de la communauté, qui venait plaider la cause des Juifs auprès des autorités. Et donc, il avait aussi ce rôle pacificateur dans la communauté. Sa vocation, c'était justement de réunir, de ne pas séparer, de ne pas diviser, et d'essayer de rassembler ce qui pouvait être disjoint.
Ce personnage, à la fois historique et légendaire, comme on le comprend, présente dans la biographie qu'on lui prête, deux époques, l'une cachée et l'autre dévoilée, deux époques qui d'ailleurs vont se retrouver dans la structure même de la théorie chassidique, au cœur d'une dialectique du caché-dévoilé qui aura beaucoup d'attrait pour les adeptes et les penseurs du chassidisme. C'est quoi ces deux époques, Jean Baumgarten?
Alors effectivement, dans la biographie du Bèche, il y a une partie où il était ce qu'on peut appeler un istar, c'est-à-dire un juif, un mystique caché, enfin un peu dans la tradition de ce qu'on appelle les 36 justes, qui maintenaient le monde jusqu'à la venue du Messie, et donc qui était au milieu de la population, sans qu'elle sache qu'il avait ce rôle vraiment de gardien, de protecteur, et aussi dans une dimension messianique. Et donc une partie de la semaine, il y a des légendes qui racontent qu'il avait l'habitude d'aller dans les forêts donc des Carpates pour s'isoler, pour prier, pour étudier et pour se relier au monde supérieur, donc ce qu'on appelle la hitbodedout, c'est-à-dire une sorte de retrait du monde, et pour pouvoir se débarrasser de toutes sortes d'influences et d'ondes, enfin de négatives, pour pouvoir se mettre en condition pour se relier au divin. Et donc le vendredi, il revenait dans cette auberge notamment que tenait sa femme, et au milieu donc des paysans, et il y avait donc cette dialectique entre le caché, le mystérieux, l'énigmatique, et puis le révélé, qui est une dimension fondamentale à la fois de l'approche des textes de la tradition. On sait qu'il y a cette différence entre le sens littéral et puis le sens caché, entre le pshat et le sod, et qu'il y a tout au long de l'étude de ces textes, de ces traditions, cette opposition entre ce qui est mystérieux, ce qui est caché, et ce qui est révélé. Et on prend souvent, il y a beaucoup de métaphores, la plus connue est certainement celle de du fruit, enfin de la grenade, donc qui est enveloppée d'une enveloppe, et donc quand on enlève cette couche extérieure, eh bien on a ces centaines de petits grains délicieux qui sont comparés à toutes les interprétations et tous les commentaires de la Torah. Mais donc il faut passer au-delà de ces apparences.
Cette scène du film Rabbi Jacob, dans une chorégraphie d'Ilan Zawi et dansée par la troupe Adama, a fait le tour du monde et se retrouve dans les mariages, des flash mobs, des festivals de danse folklorique breton et mille rencontres joyeuses à travers le monde. Valérie Lemercier l'a dansé à la soirée des Césars 2007 et en 2008, à l'occasion de la comédie musicale Rabbi Jacob. MC Solar en a fait les paroles d'une chanson, Rabbi Muffin, dont Vladimir Kosma en signa la musique. On a l'impression que cette danse et tout ce qui l'accompagne, la musique, les vêtements, la gestuelle, sont comme l'expression et le témoignage d'une universalité du chassidisme et de son message, et entre autres la place retrouvée du corps, de la communauté et de la joie. Et je pense bien sûr à cette célèbre phrase de l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Bratslav, « Mitzvah liot besimchat tamid », c'est une obligation d'être toujours joyeux, Jean Baumgarten.
Oui, dans les rares textes un peu théoriques, doctrinaux du Besht, on voit combien la joie est importante. Tout ce qui est du côté de la tristesse, de la dépression, de la déréliction, disons, est considéré comme faisant partie, disons, du camp du mal et dont ne fait que renforcer ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire cette pente ou cette tendance à mal faire, et ne fait que renforcer ce qu'on appelle les clipotes, c'est-à-dire les écorces du mal. Et donc, il faut impérativement s'extraire de ce qui peut être considéré comme un regard un peu narcissique sur soi, d'égoïsme ou d'égotisme qui empêche justement de se connecter avec le divin. Et par opposition à cette tendance à l'ascétisme, à la mortification et à la tristesse, le Besht privilégie beaucoup la joie, le bonheur, et donc donne une très grande importance au fait de louer Dieu, de servir Dieu par la joie et ce qu'il appelle Avoda Besimcha, c'est-à-dire le plaisir de Dieu, qui est la racine de tous les délices. Et donc aussi bien quand on étudie, donc la joie d'étudier ces textes, que quand on prie, quand on médite, il faut y ajouter toujours cette dimension de bonheur, de louange divine, accompagnée de joie, afin justement de mieux s'associer au divin et s'associer aux paroles révélées.
Avec son corps.
Et alors aussi avec son corps, évidemment, puisque dans le chassidisme, eh bien, il y a une très grande importance à tout ce qui est du domaine, disons, de somatique ou du domaine matériel. Le Besht considère que la présence divine se trouve dans le moindre objet, la moindre chose, disons, de l'univers et du monde, dans la moindre parcelle. Et que donc, quand on mange, quand on danse, quand on chante, quand on est amoureux, c'est une manière aussi de louer Dieu, de servir Dieu et d'extraire les étincelles divines qui se trouvent dans toutes ces choses matérielles et les faire remonter à leur source, c'est-à-dire au monde supérieur. Et donc, il y a une grande valorisation de ce qu'on appelle le avodab gashmiyut, c'est-à-dire le service divin par la corporéité, n'est-ce pas ? Et donc, il n'y a pas une division, une séparation entre le corps ou la matière qui serait du côté de l'impureté ou du mal, et puis l'âme ou l'esprit qui serait du côté du bien, mais au contraire un mélange, et donc montrer que même dans les actions, les pratiques et les gestes les plus quotidiens, eh bien il y a une dimension de sainteté.
En quoi ce fut un véritable bouleversement dans les communautés juives, au point que le chassidisme fit naître plusieurs forces d'opposition? En quoi, pour reprendre une formule de Nietzsche que l'on peut appliquer au Baal Shem Tov et que vous citez en exergue de votre livre, il fut un lutteur contre son temps, Jean Baumgarten?
Eh bien, effectivement, dans la mystique juive, on sait qu'elle était surtout réservée à une élite intellectuelle, hein, des Talmid et Rahamim, des savants qui avaient une très haute culture religieuse. Et le Besht tend à, disons, démocratiser ou populariser tous ces éléments de la Kabbale qu'il intègre dans ses sermons, dans ses légendes et dans ses pratiques. Donc, bon, c'est une époque en Europe orientale où on sait qu'il y a eu une grande diffusion de la Kabbale et du Zohar. Et donc, dans le chassidisme, on retrouve tous ces éléments, mais avec une dimension, disons, une approche qui est plus, disons, oui, enfin, plus proche du peuple. Et donc, il y a une volonté de rendre toutes ces notions très complexes, très sophistiquées, disons, qui puissent être comprises et pratiquées par n'importe quel juif.
C'est ça la lutte contre son temps.
Oui,
c'est-à-dire la démocratisation contre un moment où il y avait un élitisme de l'étude, et là tout à coup c'est ouvert à tout le monde. Alors vous avez souligné l'importance de la vie quotidienne, vous écrivez même « absorbé dans les tâches quotidiennes », écrivez-vous, « le chassid reste en lien avec le divin ». Je pense à cette célèbre histoire chassidique que rapporte Martin Buber. Un homme vint voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev pour lui dire, apeuré d'une telle transgression, qu'un homme avait osé réparer la roue de sa charrette alors qu'il était enveloppé de son châle de prière. Le rabbi leva les yeux au ciel et s'adressa à Dieu en souriant. « Regarde, Seigneur, comme tes enfants sont formidables, même quand ils réparent leur charrette, ils ne s'arrêtent pas de prier. » Jean Baumgarten.
Oui, dans le chassidisme, et notamment chez le Besht, il y a une double dimension, disons, de sacralisation du quotidien et en même temps d'humanisation, de proximité du divin. Et avec toujours cette idée qu'il y a entre le microcosme et le macrocosme, entre le haut et le bas, des relations. Donc le Besht, dans ses idées et dans sa doctrine, c'est quelqu'un qui met en avant l'idée de correspondance, de lien, de relais entre ces dimensions tout à fait éloignées. L'idée aussi que toute mitzvah, tout commandement, toute action tendant vers le bien, eh bien, a une répercussion dans les mondes supérieurs. Donc c'est ça qui est tout à fait fondamental. Et donc il donne à chaque juif, donc il lui montre la responsabilité qu'il a dans ce processus de l'avènement des temps messianiques. Et que donc ça n'est pas simplement une dimension collective, mais que chaque juif a le pouvoir d'accélérer, disons, cette venue de la libération collective.
Alors j'ai commencé l'émission par une histoire, et je viens d'en raconter une autre. On a l'impression que les histoires ont une place primordiale dans la doctrine chassidique, non seulement comme parabole édificatrice, mais comme vecteur de quelque chose de plus élevé et plus profond. Je pense au conte de Rabbi Nachman, qui en a théorisé leur fonction, et je pense à Kafka, qui écrivait à Max Brod, dans une lettre de septembre 1917, « Les histoires chassidiques dans le Yiddishes Echo ne sont peut-être pas les meilleures, dit-il, mais je ne sais pas pourquoi ces histoires sont les seules choses juives dans lesquelles je me retrouve tout de suite et me sente aussitôt chez moi, indépendamment de mon état d'esprit. » Jean Baumgarten, c'est formidable cette phrase de Kafka.
Oui, tout à fait. Là, il a vraiment pointé un aspect tout à fait essentiel. Et c'est notamment par la narration, par le récit, par la légende, qu'on a accès à toute cette doctrine extrêmement complexe. Mais évidemment, il n'y a pas que les récits dans le chassidisme. Il y a aussi des commentaires, il y a des écrits légaux. C'est une littérature extrêmement riche, extrêmement foisonnante. Mais ce qui est surtout connu, ce sont ces magnifiques légendes chassidiques et qui montrent d'abord la force régénératrice de la parole du tzaddik, enfin du Rebbe, donc qui a le pouvoir justement de transformer les paroles qui peuvent, où il peut y avoir une dimension mauvaise ou parasite, eh bien il a la possibilité, il y a une force régénératrice dans ces paroles. C'est une manière aussi de transmettre par le biais de fiction, de narration, des notions essentielles de la mystique, de la doctrine racidique. Donc il y a une dialectique entre le fait de raconter, de dire, notamment durant le tish, enfin ce rituel où toute la communauté se réunit autour du Rebbe, et où on raconte ces histoires. C'est aussi l'idée que quand on récite et quand on dit ces légendes, eh bien, il y a ce qu'on appelle un tikkun adibur, c'est-à-dire une réparation, une rédemption par la langue, par la parole. Et ça, c'est aussi une dimension très importante, c'est-à-dire qu'on perce les apparences et on va, comme disait Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir.
Alors justement, transformation de l'âme par les paroles. Le chassidisme est spirituellement et intellectuellement très vivant aujourd'hui à travers le monde. On le retrouve non seulement dans la danse et la musique, comme on l'avons vu, mais aussi dans les sciences et les sciences humaines. J'aimerais que vous nous parliez de cette vitalité. Et en particulier, je me suis demandé si la dialectique du cachet dévoilé évoquée tout à l'heure n'avait pas un lien avec la découverte de la psychanalyse. Je pense à cette lettre de Freud à Robach, médecin américain, à qui Freud écrit en 1930, en insistant « Je tiens à vous dire que mon père était réellement issu d'une famille chassidique, Jean Baumgarten. »
Oui, on peut dire qu'il y a une sorte d'universalisme du chassidisme et qu'il a eu une grande importance dans la réidentification et dans le fait de se reconnecter avec le judaïsme pour des générations qui sont un peu des générations perdues. Et donc il y a cette dimension de se rattacher à une communauté très chaleureuse avec des rituels tout à fait intégrateurs, unificateurs. Et il y a aussi beaucoup le rôle de grands personnages de la littérature et de l'histoire juive. Je n'en citerai que quelques-uns, on pense bien sûr à l'historien Simon Dubnov, dont l'histoire du racidisme a été magnifiquement traduite par Marian d'Alsace. Et donc ça, c'est aussi un livre qui a eu beaucoup d'importance dans la reconnaissance et dans la popularisation du racidisme. On peut aussi penser, bien sûr, aux récits racidiques de Buber, qui ont eu une immense importance et qui ont montré que c'était vraiment un monument de la littérature universelle. Et aussi, on pense à Bialik. On sait que les éditions de l'Éclat ont traduit, Jean Getzel a traduit quelques-uns de ces très beaux textes qui montrent qu'il n'y a pas simplement que la halakha, mais il y a aussi cette dimension narrative de la Haggadah et que les deux doivent se concilier. Et donc, que ce soit Agnon, Bialik, Buber, Dubnov, tous ces grands personnages ont eu beaucoup d'importance dans la révélation et la popularisation du racidisme qui est venu maintenant, disons, une spiritualité qui est largement répandue et qui va au-delà des, disons, de la communauté juive et des lecteurs juifs, mais qui a aussi des échos profonds parmi les non-juifs. Et d'ailleurs, on a fait, certains, Buber l'a fait, des relations entre, par exemple, le taoïsme, le zen, et puis certains maîtres du racidisme.
Et la psychanalyse.
Alors, effectivement, je crois qu'il y a, ce que vous avez dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que il y a chez le Baal Shem Tov, alors ça n'est pas un révolutionnaire, mais c'est quelqu'un qui introduit vraiment une rupture dans les modalités, disons, de transmission du savoir traditionnel et qui amène une nouvelle approche vraiment du savoir, de la piété, de l'étude, de l'importance ici de la mystique dans la vie religieuse. Et on peut le comparer, en étant prudent, mais en montrant combien il a de relations avec Freud, qui lui aussi était le fondateur d'une science nouvelle, qui était avec la découverte de l'inconscient, qui a introduit une topique de la psyché tout à fait nouvelle, qui a complètement bouleversé notre connaissance de l'âme humaine. Donc il y a des points communs entre les deux, par exemple le rôle très important de la parole, Et il y a ce fameux moment dans le racidisme qui est le yiroud, c'est-à-dire la relation et le moment intime entre le tzaddik et le racid, enfin l'adepte. Et là, on peut comparer ça un peu à une séance psychanalytique. Et puis, on peut dire que, par exemple, dans le texte de Freud sur les mots d'esprit, enfin le witz, eh bien, il y a beaucoup de blagues racidiques. Et on peut dire que la blague, enfin l'histoire racidique a le même effet que lors d'une séance psychanalytique quand, au détour d'une expression tout à fait banale, eh bien, on découvre une dimension cachée de l'inconscient et on révèle un élément essentiel de l'histoire du patient. Eh bien, dans les récits racidiques, il y a aussi cette dimension de découverte de soi.
Merci Jean Baumgarten pour cette magnifique enquête autour de la figure du Baal Shem Tov. Merci de nous avoir donné envie de découvrir plus avant les aventures de ce personnage qui, pour reprendre deux de vos formules, restera un semeur d'avenir exceptionnel, offrant à chacun quelques particules d'infini. Je rappelle le titre de votre livre tout à fait passionnant, Le Baal Shem Tov, mystique, magicien et guérisseur. Il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci encore Jean Baumgarten.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Valentin Azan-Zielinski, à la réalisation. Très ému par les histoires chassidiques et tout à fait d'accord avec le monde en joie perpétuelle, Dany Journeau, Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.